Alors, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous ce matin. Et je voudrais d'abord peut-être vous adresser les salutations fraternelles de l'Assemblée de Ransbech. Alors, pour ceux qui l'ignorent, l'Assemblée de Ransbech, c'est dans un petit hameau dans la commune de Lannohain, à portée de vue du Lyon de Waterloo. Et je crois que Rose connaît bien ce petit Ransbech parce qu'elle a des origines là-bas. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez lui poser la question. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens et nous allons peut-être lire directement ce chapitre et puis voilà, je continuerai. Et je lis, je sais pas si je lis dans la version seconde 21, mais voilà. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyez sombres. En effet, ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui aussi qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, dans ce chapitre, et vous verrez que dans la prédication, on dirait qu'il y a deux parties un peu différentes qui ne se connectent pas tout à fait, mais en fait, il y a une continuité. Et peut-être vous donner d'abord un petit contexte, parce que, voilà, il faut comprendre un peu le but de cet épître. Cet épître, en fait, est une des premières épîtres de l'apôtre Paul. Elle est adressée donc à l'église de Thessalonique. Donc, Thessalonique, pour que vous visualisiez un petit peu, c'est dans le nord de la Grèce, en fait. Vous savez, la Grèce en un petit rectangle, et c'est sur la partie nord qui donne sur la mer Égée. Et en fait, l'église de Thessalonique était une église qui était relativement jeune, qui venait de se constituer. Et voilà, donc il y a... Je dirais, l'apôtre Paul veut encourager cette jeune église. Et il y avait un sujet un peu particulier dans cette église, c'était que les chrétiens qui appartenaient, en fait, pensaient que le Seigneur allait revenir rapidement. Et à un moment donné, ils ont vu que des êtres dans leur entourage décédaient. Et puis, ils se posaient la question de dire, mais finalement, le Seigneur, on pense qu'il va revenir. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas tous réunis avec le Seigneur. Et ils se posaient donc beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, en fait, dans cet épître, en fait, l'apôtre Paul répond un peu à cette interrogation qu'avaient les chrétiens de cette jeune église. Et peut-être il est utile de reprendre, peut-être de relire justement la fin du quatrième chapitre de Thessaloniciens, qui parle justement de ce point, et vous verrez, puisque le début du chapitre 5 en fait est en continuité avec cela. Donc je relis rapidement pour vous. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. » Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. On a parlé de la trompette tout à l'heure dans une prière. C'était Mehdi dans l'introduction. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange ou au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, ceux qui seront encore en vie, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voyez, donc il y a une réponse claire et nette. Et d'ailleurs, c'est une espérance que nous sommes appelés à partager. Hein, parce qu'on vit aujourd'hui, il y a une promesse qui a été faite, il y a un plan de Dieu qui est là. Alors, on connaîtra peut-être, ce moment, peut-être pas, mais la promesse est faite et nous avons l'assurance de ce moment, de cette résurrection par lequel nous passerons. Et d'ailleurs, on emboîte directement avec le chapitre 5, et en ce qui concerne le moment, justement, les temps et les moments. Alors c'est assez amusant parce que souvent, on a tendance à guetter dans nos milieux les signes qui annonceront justement la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Et on regarde les temps de guerre. D'ailleurs, c'est dit aussi dans la parole de Dieu. Mais ici, c'est assez amusant, on dit, attention, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors peut-être qu'à ce moment-là, le retour du Seigneur se fera. Donc, de toute façon, la parole nous dit, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire, et c'est la suite de ce chapitre 5, que nous sommes appelés à être prêts au moment où le Seigneur reviendra. Alors, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. C'est quoi le jour du Seigneur ? Le jour du Seigneur, c'est le jour de son retour. Mais le jour de ce retour, ce n'est pas juste un retour qui va se faire comme ça. Ah, je suis de retour, j'ai été absent pendant près de 2000 ans, ou peut-être plus, ce sera peut-être 3000 ans, je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Seigneur, il reviendra, mais c'est aussi à ce moment-là que le jugement se fera. Ce jugement, il aboutira soit à une condamnation, à la mort éternelle, soit à la bénédiction de pouvoir être, comme on l'a cité tout à l'heure, réunis pour un grand festin, pour une grande adoration avec le Seigneur. Et surtout, à partir de ce moment-là, c'est le royaume de Dieu qui s'accomplira dans toute sa grandeur. On y reviendra quand même, parce que le royaume de Dieu, en fait, il ne commencera pas au moment, je dirais, où le Seigneur reviendra. Mais donc, vous n'êtes pas, vous, dans les ténèbres. On l'a dit déjà plusieurs fois ce matin. En fait, le Seigneur est là, on sait qu'il reviendra. Et on connaît, je dirais, tout ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous a promis. Et nous devons être prêts quand même, parce que peut-être que ce sera cette nuit, peut-être que ce sera dans 1000 ans, mais nous devons être prêts. Et donc, l'apôtre appelle les chrétiens à être vigilants, à être éveillés. Alors, on ne parle évidemment pas ici au premier degré, ce n'est pas être endormi ou faire dodo, ou je dirais être debout. On a besoin de notre sommeil, mais ici c'est évidemment un second degré qui veut dire en fait que nous sommes appelés à être vigilants. C'est ce que le Seigneur veut nous dire quand il dit ne dormons pas. Par opposition, c'est ceux qui dorment, ceux qui s'enivrent, ce sont les insouciants, et on a peut-être la tentation aussi d'être insouciant dans la vie de tous les jours, c'est de profiter, entre guillemets, de la vie. Ça ne veut pas dire nécessairement s'enivrer de vin ou d'alcool, mais c'est d'être insouciant, de dire bah, de toute façon, on verra bien demain. Là, aujourd'hui, je m'occupe de mes affaires, je profite de la vie, des plaisirs de la vie, et pourquoi pas. Mais le Seigneur nous invite à être vigilants et à être prêts à rencontrer le Seigneur. Si demain le Seigneur est là, êtes-vous prêts à le rencontrer? Alors, nous qui sommes sombres, nous qui sommes du jour, qui sommes vigilants, soyons sombres. Et alors, l'apôtre Paul nous donne quand même des petits encouragements, et il fait référence à la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Et ici, je pense que ça vaut la peine de relire justement le passage d'Éphésiens où c'est un peu plus long, et c'est dans Éphésiens 6. À partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité comme ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un concentré, je dirais, de choses, mais ce sont tous des instructions, finalement, que le Seigneur nous donne pour vivre notre relation avec lui au jour d'aujourd'hui. Parce que, bon, la vie, elle est faite, on l'a mentionné tout à l'heure dans une prière, elle est faite parfois de choses difficiles, d'épreuves, de deuil, de maladies, de contraintes. Enfin, la vie est compliquée, mais nous avons une vie aussi avec le Seigneur qui est réelle et qui nous permet, qui est prioritaire finalement dans notre vie, dans notre perspective. Et en plus, alors, j'ai perdu mon fil là maintenant, c'est pas grave, ça va revenir. Je vais y revenir. Mais nous sommes appelés vraiment à être en relation avec le Seigneur. Oui, ce que je voulais dire, c'est que aussi l'adversaire, le malin, Satan, a pour désir de nous éloigner du Seigneur. Et donc, tout ce qu'on vient de lire, je dirais, dans le passage d'Éphésiens, nous permet justement de rester fidèles à la parole de Dieu et d'aller au-delà de toutes les tentations malsaines ou de toutes les embûches ou de toutes les tentations qui nous viendraient du malin et qui ont pour but de nous éloigner du Seigneur. En effet, nous sommes appelés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La possession du salut, c'est quelque chose qui nous donne une force immense. C'est une assurance que nous avons aujourd'hui de vivre avec le Seigneur. Avez-vous cette possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ? C'est un moteur en nous qui, jour après jour, au-delà de toutes les difficultés de la vie, nous permet d'avancer et de différentes manières, notamment dans la joie, quelles que soient les circonstances que nous vivons. On poursuit. Quelles que soient les circonstances, que nous veillons ou que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Parce que même si le Seigneur nous rejoindra dans un moment donné, nous sommes appelés déjà à entrer dans le royaume de Dieu et à vivre pleinement notre relation. C'est lui qui est notre énergie finalement, hein, et qui nous permet de vivre et qui nous offre la joie, je dirais, d'être avec lui, d'être réconciliés pleinement, d'être des adorateurs aujourd'hui déjà. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. L'encouragement, nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous sommes un peuple, ça veut dire que nous ne sommes pas, alors nous sommes des individus, mais ce sont des individus qui ont des relations entre les uns avec les autres. Et comme je le disais tout à l'heure, la vie, elle est faite de haut et de bas. Eh bien, nous sommes appelés à nous encourager. Quand un est dans le bas, eh bien, les autres peuvent resserrer les liens et encourager la personne. Et si nous sommes dans un haut, eh bien, profitons pleinement de ce que le Seigneur nous a donné. Et peut-être profitons de ça, je dirais aussi, c'est comme dans une famille, bah, parfois on a des réjouissances, bah, un mariage ou des choses comme ça, bah, tout le monde est là et on se réjouit ensemble. Mais quand les choses ne vont pas bien, eh bien on serre les coudes et on est ensemble. Et l'encouragement, il est peut-être dans les circonstances de la vie, dans tout ce qui touche aux émotions, mais être ensemble, c'est aussi être appelé à s'édifier. Et la notion d'édification, pour moi, ben c'est justement de s'aider les uns les autres dans la connaissance de ce que est le Seigneur, de ce qu'il nous offre, et je dirais, voilà, de partager l'enseignement, de partager nos expériences de vie. Moi, j'ai connu ça, le Seigneur a fait ceci pour moi, et c'est toujours encourageant et édifiant de voir ce que le Seigneur fait dans nos vies respectives. Et je dirais, c'est en tant que communauté, eh bien, nous sommes une communauté d'hommes et de femmes qui sommes appelés à, je dirais, partager aussi les éléments de foi de notre vie. Parce que ça nous édifie, ça nous pousse. Ah, je suis découragé, je vis ça, le Seigneur m'a abandonné. Non, une autre personne peut dire, le Seigneur, il a fait ça dans ma vie, il m'a donné une parole, voilà. Et je dirais, on s'édifie, on se rapproche du Seigneur ensemble. Bien sûr, notre relation avec le Seigneur résulte d'une décision personnelle dans notre cœur, mais nous ne sommes pas tout seuls. Et ça, je pense que c'est vraiment important. N'ayons pas peur, sans vouloir être, je dirais, ouvert sur notre vie, mais n'ayons pas peur, parfois, avec peut-être une personne en particulier, de partager les difficultés de notre vie ou les interrogations que nous avons, les moments un peu de dépression que nous avons. N'ayons pas peur de partager. Alors, à vous de choisir les personnes ou le groupe de personnes, mais n'ayons pas peur de partager, je dirais, ce que nous vivons. Et ensemble, nous pouvons nous encourager et nous édifier. Et puis, il y a une deuxième partie que nous allons maintenant aborder, qui sont un peu les recommandations de l'apôtre Paul à cette église de Thessalonique. Alors, D'abord, un premier point, c'est de dire qu'il y a, pour moi, il y a une continuité, parce que on sort un peu, je dirais, d'un commentaire sur le retour du Seigneur. Mais en fait, pour moi, il y a une continuité, parce que on est dans une période où le royaume de Dieu a déjà commencé. Le Seigneur reviendra à un moment donné et ce sera, je dirais, un événement extraordinaire. Mais étant déjà dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à finalement à adopter un mode de vie qui est celui du royaume de Dieu. Et Paul donne, un certain nombre de recommandations à ce sujet. Et l'attitude de Paul me fait un peu penser à des parents qui voient un de leurs enfants quitter le nid familial. C'est un... Avant, pour les garçons, ils faisaient le service militaire. Bon, c'était il y a longtemps. Peut-être. Et donc, Mais maintenant, on va dire autre chose. C'est un des enfants qui va peut-être faire un stage Erasmus, dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, où ça peut être, un enfant qui quitte le nid familial pour avoir son propre appartement, les circonstances. Ou même, un petit enfant qui va partir en colonie pour la première fois au camp de Genval, qui va passer 10 jours en été, et c'est la première fois, il va quitter papa et maman. Et donc, les parents, ils sont là en train de donner toute une série de recommandations. Attention, tu feras ça le matin, tu rangeras bien tes chaussettes, ou le soir, tu feras ceci, tu nous écriras, tu nous donneras des nouvelles. Enfin, vous pouvez imaginer ce que les parents vont donner comme recommandations. Ben, c'est un peu ici la même chose que Paul va faire aux chrétiens de Thessalonique. Et en quelques versets, je crois qu'il y a sept versets, l'apôtre Paul va donner une vingtaine de recommandations. Vous voyez, c'est... et j'ai essayé de les catégoriser en quatre parties. Et donc, la première partie, c'est, votre attitude par rapport à vos responsables. C'est un peu bizarre, ça, quand même, une recommandation de ce que vous pouvez faire pour vos responsables. Et donc, ici, on peut lire, donc, au verset 12, « Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail et soyez en paix entre vous. » Alors oui, c'est important. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est pas anodin. C'est pas juste pour faire bien, etc. C'est pas juste pour. Là, il ne parle pas de lui-même nécessairement. Il parle des responsables de l'Église de Thessalonique. Mais moi, je vous dis aussi ici, à Jumet, ayez de l'égard pour vos responsables, pour vos anciens, pour vos diacres. Être diacre et être ancien, c'est pas, un titre honorifique. C'est pas juste avoir une étiquette là-bas. C'est être des serviteurs. C'est prendre en charge l'enseignement de la communauté. C'est prendre en charge le soin pastoral. Et je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Parce que, on porte souvent, on est appelé, d'abord, l'enseignement, il faut approfondir la parole de Dieu, ça demande du temps. Alors, c'est toujours chouette d'approfondir la parole de Dieu, il n'y a pas de ça. Mais bon, ça prend du temps, il faut aussi consacrer. Mais dans tout ce qui est soin pastoral, être le berger d'une communauté, c'est aussi, porter des situations délicates. Ça peut être des situations de deuil, ça peut être des conflits dans une famille, des conflits entre un mari et une femme, ou avec des enfants, ou des conflits entre personnes. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident, parce qu'il faut supporter, on a une énergie qui passe là-dedans, et il faut avoir un esprit de paix. Et donc, ayez des égards par rapport à vos anciens et à vos diacres. Ayez de l'amour pour eux, supportez-les. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à leur dire, il faut pas. Mais ils reçoivent du Seigneur, ils ont une responsabilité devant le Seigneur et ils ont une autorité pour vous. Et vous devez respecter cela. Soyez en paix aussi les uns avec les autres. Ce sera d'ailleurs une manière d'aider vos responsables. Mais ce sera aussi, je dirais, une manière de témoigner de l'amour du Seigneur. Soyez en paix les uns avec les autres. Nous sommes tous différents. Oui, oui. Et la manière de vivre de l'un ne sera peut-être pas la manière de vivre de l'autre. Et ça peut susciter des réactions. Mais soyez en paix, ça ne vous empêche pas d'être en paix. Et peut-être parlez-en les uns avec les autres et ça vous édifiera justement. Une deuxième catégorie de recommandations, c'est touche, ben justement, c'est un peu en continuation, c'est tout ce qui touche aux relations fraternelles. Alors nous vous exhortons, frères, avertis ceux qui vivent dans le désordre. Dans d'autres traductions, on dit les paresseux. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience avec les autres. Envers les autres, pardon. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. C'est finalement comment nous interagissons les uns avec les autres. Il y a plusieurs choses qui sont énoncées ici. Si vous constatez que dans l'assemblée, il y en a qui mettent un peu les problèmes dans l'assemblée, eh bien vous êtes appelés, peut-être prioritairement les responsables, mais vous êtes appelés à interagir, à les dire, mais écoute, là il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis. Il faut le faire avec amour, bien évidemment. Vous n'êtes pas là pour taper sur les doigts. Mais c'est une responsabilité quand vous voyez que quelqu'un s'écarte. Et souvent, je dirais, s'écarter du Seigneur, ben ça, c'est souvent un peu... C'est jamais d'un coup, en général. Il y a des petites choses qui... Et de plus en plus, on voit la personne qui s'éloigne. Elle ne vient plus au culte, elle ne vient plus à l'étude biblique, vous voyez qu'il y a des paroles un peu blessantes, et ce sont tous des signaux qui vous appellent justement à réagir, et qui vous appellent à vous poser des questions, à poser des questions à la personne, et peut-être à la rebooster, à la remettre, entre guillemets, sur un chemin de communion. Réconforter ceux qui sont abattus, oui. La vie humaine fait que nous sommes dans la maladie. Vous avez perdu Hélène il y a quelques mois. Ce sont des choses qui sont tristes. Les proches plus particulièrement sont toujours touchés. Et donc, nous sommes appelés à agir en tant que communauté et à nous encourager les uns, à entourer les personnes qui sont justement dans des périodes. Avec mon épouse, nous fréquentons une étude biblique au Grand-Duché de Luxembourg, où nous habitons. Et une dame qui était dans ce groupe d'études bibliques, 40 ans, est morte du jour au lendemain. Incompréhensible, je dirais, choquant. Un petit garçon de 8 ans, je pense. Et nous avons, dans le groupe d'études bibliques, nous avons été là, autour. Alors, évidemment, ça n'ôte pas la tristesse, le drame, etc., mais nous avons entouré le mari. On a organisé des repas, on a tout ce qui est dans les cérémonies, on a pu aider, etc. On a essayé d'être une famille autour de cette personne. Et je pense que le mari, il nous a dit à un moment donné, vous êtes ma famille. Et il a exprimé ça. Et je dirais, être une famille, c'est quand même important, parce qu'il y a un amour particulier dans une famille. Voilà, donc nous sommes appelés à nous encourager les uns, à soutenir les faibles. Parfois, dans la foi, je dirais, il y a des personnes qui ont une foi ferme, etc. C'est un bunker, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a des personnes qui se posent des questions, qui émotionnellement sont des montagnes suisses. On est appelé à être patient d'abord, parce que ce n'est pas toujours évident. et puis à comment donc à encourager la personne à la soutenir. Et puis nous sommes appelés à chercher le bien les uns avec les autres. C'est quoi le bien ? Je ne vais pas entamer ce chapitre, mais nous avons toujours, on sait ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui est bien, je pense. Et nous sommes appelés à cheminer ensemble vers ce qui est bien et éloigner tout ce qui est mal, tout ce qui vient de Satan. Un troisième chapitre de recommandation, ce sont tous des points qui touchent à la piété personnelle. Soyez toujours joyeux. Oui. Nous avons la joie. On a pris la Sainte Cène. La Sainte Cène, ça célèbre un élément dramatique. C'est la croix, c'est la mort de Jésus sur la croix. Mais d'une certaine manière, la croix, pour nous, c'est une grande joie. Parce que c'est ce qui nous permet d'être à nouveau en pleine communion avec Dieu. Et c'est, entre guillemets, génial. Donc, soyons toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient justement tout ce qu'on vient d'évoquer, les difficultés de la vie. On peut être dans la plus grande tristesse parce qu'on a eu un décès dans la famille. Et d'un autre côté, je dirais être dans la joie, dans la paix, parce que nous savons que Dieu gouverne les choses. Et nous savons peut-être que la personne qui est décédée l'a rejoint de toute façon le Seigneur. Mais voilà, on est appelé à être toujours joyeux. Ce n'est pas toujours être joyeux, avoir le grand sourire, etc. Mais c'est une joie intérieure dans notre cœur. Et je dirais, c'est pas... Enfin, soyons honnêtes, on n'a pas la joie tout le temps dans notre cœur à 100%. C'est quelque chose qui se travaille. C'est toujours se retourner vers le Seigneur en disant... Et de voir finalement tout l'amour du Seigneur et de voir tout ce qu'il nous donne et nous dire, oui, finalement, Seigneur, tu maîtrises nos vies, tu nous offres ton amour. Et c'est ça qui nous donne la joie. Priez sans cesse, priez sans cesse. La prière, on peut la voir de différentes manières. C'est un dialogue assez unique, finalement, avec le Seigneur. Que ce soit la prière communautaire, que ce soit la prière personnelle. On peut parler. Parler, ça veut dire aussi écouter. Ce n'est pas juste parler, ça peut être aussi être à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Et puis, c'est aussi, je dirais, la prière d'exhortation où nous pouvons demander des choses au Seigneur. Et il est souvent utile de mettre des mots sur ce que nous voulons demander au Seigneur. Ce n'est pas juste avoir un sentiment, « Seigneur, fais que ma vie soit meilleure. » Non, il faut parfois mettre des mots dans notre conversation. Souvent, ma femme me dit, « Eric, finis tes phrases. » Parce que moi, je commence la phrase et je suis déjà un train plus loin. Et je trouve que, de toute façon, c'était évident le début. Je dirais avec le Seigneur, nous devons mettre des mots. Parce que mettre des mots dans notre conversation avec le Seigneur, c'est aussi mettre des mots sur nos sentiments, sur ce que nous pensons, sur nos attitudes. Et finalement, c'est déjà entamer, je dirais, un vrai dialogue et être à l'attente de ce que le Seigneur nous donne. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyons, une des manières d'être en joie aussi, c'est de voir tout ce que le Seigneur nous offre. Faites la liste de tout ce que le Seigneur, la liste des choses que le Seigneur vous a offertes. Et vous verrez que, je crois qu'il y a un petit chant qui dit ça, je ne sais plus, j'ai oublié, mais voilà, merci. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Mais oui, mais c'est aussi des sujets d'adoration par rapport au Seigneur. Et puis, on arrive à une dernière catégorie. Je vous ai dit qu'il y avait un des quatre. Donc, nos responsabilités via les responsables, les relations fraternelles, la piété personnelle. Et dans un quatrième chapitre, on va dire, c'est du bon usage, enfin, ce que j'ai nommé du bon usage des manifestations de l'esprit. Et donc, justement, au verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit ». Oui, le Saint-Esprit nous a été donné, un consolateur vous a été donné. Donc, restons ouverts à cette troisième personne de la Trinité que le Seigneur nous a donnée et qui permet. On n'a pas, je dirais, voilà, on ne peut pas faire un zoom avec le Seigneur. Il n'y a pas un écran où on voit Dieu, etc. Mais le Saint-Esprit est là, en nous, et nous sommes appelés à le laisser, à ce que notre cœur soit perméable à ce que le Saint-Esprit et Dieu veut nous dire. N'éteignez pas l'esprit. Alors pour ça, je dirais, ben voilà, la parole de la Bible vous est donnée, on peut prier, on peut justement parler les uns avec les autres, on peut simplement faire une méditation lorsqu'on fait une promenade, ou voilà, enfin, il y a 36 moyens, je dirais, de laisser la porte à ce que le Saint-Esprit nous parle, mais justement, soyons dans une attitude où nous sommes ouverts à ce que le Saint-Esprit nous parle. Ne méprisez pas les prophéties. Alors souvent, on a, par le mot prophétie, on a, je dirais, les paroles de connaissance, quelqu'un qui se lève et qui dit « j'ai reçu une parole qui dit qu'il y a parmi nous quelqu'un qui… » etc. Ben non, oui, peut-être. Je ne dis pas que le Seigneur peut faire ça. Mais la prophétie, les prophètes, entre guillemets, ce sont des personnes qui parlent au nom du Seigneur de manière générale. Hein, et dans la Bible, il y a un certain nombre de prophètes qui ont été les porte-paroles. Et je dirais, voilà, on peut être un porte-parole du Seigneur. Donc, soyons quand même attentifs à ce que le Seigneur peut nous apporter. Ça peut être un prédicateur, parfois, qui nous dit quelque chose, qui ne connaît pas du tout l'assemblée locale, et puis qui va peut-être mettre le point sur quelque chose d'importance au sein de l'assemblée. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Quel que soit ce qui vous est dit, ayez toujours votre sens critique. Je pense que nous, en tant que protestants, nous sommes protestants évangéliques, mais en tant que protestants, c'est justement une de nos caractéristiques, c'est d'être critique, mais pas critique négativement, péjorativement, mais d'être critique par rapport à ce qui nous est dit. Si quelqu'un nous parle, il y a des gens qui parlent très bien, qui ont un don d'éloquence, alors c'est formidable, et je suis toujours heureux quand on entend des personnes comme ça, mais soyons toujours critiques. Est-ce que la personne est bien fidèle à la parole de Dieu? Et donc, parce que finalement, parfois, il peut y avoir, hein, vous savez, il y a des loups dans la bergerie, parfois, qui arrivent. Et donc, soyons toujours critiques. Faisons attention. Mais retenez ce qui est bon. Hein? Donc, faisons attention si on perçoit des dérives, mais ce qui est bon, ben, retenons-le et appliquons-le dans nos vies. Et abstenez-vous de toutes sortes de mal. Oui. Comment être un fils de Dieu ou une fille de Dieu si on pratique le mal, hein? Soyons conséquents dans nos vies. Alors, oui, on n'est pas parfait, on est toujours pécheurs, etc. Et le Seigneur, de toute façon, on sait que le Seigneur nous pardonne. Mais, je dirais, ne visons pas le mal pour le mal. On peut tomber, mais voilà, essayons de nous écarter de tout ce qui pourrait potentiellement nous conduire à mal agir. Hein, ne fréquentons peut-être pas certaines personnes, ne fréquentons peut-être pas certains milieux, ou éloignons-nous de certains programmes ou de faisons attention de notre consommation d'un petit outil bien utile qui s'appelle smartphone, qui est utile pour plein de choses, mais nous n'en devenons pas les esclaves. Hein, donc voilà. Voilà, donc je dirais une vingtaine de recommandations de le Seigneur. Et vous voyez que Oui, il y a moyen de. Ça donne c'est du beefsteak, quoi. Un peu, je dirais, si on pratique ces choses. Mais ce sont des choses auxquelles nous sommes appelés à pratiquer parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, déjà. Et puis voilà, Paul finit par ses salutations. Et finalement, il remet un peu, je dirais, certaines recommandations, hein, mais c'est sous forme de souhait. Que le Dieu de paix sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que vous, votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que nous soyons dans notre entièreté, dans ce que nous sommes, hein, notre cœur physique, notre cœur, notre âme, que nous soyons prêts, conservés irréprochables, prêts pour le retour du Seigneur. Que nous soyons prêts, on revient, je dirais, un peu au début de ce que nous avons lu ici. Et que le Seigneur vous sanctifie. Parce que ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on sait bien que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Nous sommes faibles, faut le dire. Hein? Mais le Seigneur nous donne cette force. Hein? Il est là à nos côtés, il y a son Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Et je dirais, le Seigneur nous donne un pouvoir sur nous-mêmes d'être irréprochables. Alors irréprochables, ça ne veut pas dire hein, nous sommes saints, parce que nous sommes les enfants de Dieu, et nous ne sommes pas saints dans nos comportements, parce que nous sommes toujours marqués par le péché sur cette terre. Mais, je dirais, voilà, on est dans le bon train, si je peux me permettre cette expression un peu simple. Car c'est lui qui nous appelle à être fidèles, c'est lui aussi qui est fidèle à nous. Et c'est vraiment la promesse de Dieu qui est là de dire... Mais le Seigneur, voilà, il est là. S'il devait simplement, je dirais, voir ce que tous les hommes font, je crois que nous, on aurait déjà tout plaqué et on aurait dit ben, qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Mais le Seigneur est fidèle, il est toujours là. Il touche toujours des vies aujourd'hui et vous le voyez autour de vous. Il est toujours là qui... Et on vous dit parfois, mais cette personne-là, j'aurais jamais imaginé qu'elle aurait été sensible au Seigneur. Et puis, le Seigneur touche. On ne sait pas comment, mais le Seigneur touche et change les vies. Il est toujours là, fidèle dans son amour. Voilà, je termine ici et je termine par le dernier verset qui est un verset adressé aux Thessaloniciens, mais je crois qu'il nous est adressé à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est vraiment mon souhait profond pour vous tous ce matin et pour les jours qui viennent.